Il faut le traiter.
On comprend pas.
Tiens, ouais, d'une façon générale, c'est toujours cette idée qu'il y a une espèce de confusion autour des règles, et des règles en particulier qui ne s'appliquent pas. La police, quand elle arrête quelqu'un, n'importe quel citoyen n'a pas, doit être du entre guillemets du côté de la police sans intervenir. Mais la police est là, c'est là. Ou alors c'est très grave si on commence à contester. Et deuxièmement, pour cet individu, cet homme, le type, il est en récidive, et donc c'est tout ce que vous avez dit, je ne reviens pas, mais il y a d'une part déjà sur le droit d'asile, il commence vraiment à être temps de mettre un peu d'ordre là-dedans, parce que le droit d'asile, c'est quelque chose qui est quand même assez précis. Or, maintenant, il y a des gens qui viennent de
Géorgie, on n'a pas eu un mot
Géorgie,
dans le discours d'Elisabeth Borne. Hein.
D'Albanie, et même du Nigeria. Le Nigeria n'est pas une dictature, c'est pas vrai. Donc il y a déjà un vrai problème sur le droit d'asile, et puis surtout, comme ça a été dit excellemment, quand une décision est prise, elle devrait s'appliquer immédiatement. Et donc, quelqu'un qui écope, malheureusement pour lui, d'une obligation de quitter le territoire, ça devrait être organisé. C'est ça. Et là, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas.
C'est pour ça que son discours.
Il y a 50 exemples dans la société.
C'est pour ça que je défie Elisabeth. C'est que son discours tout à l'heure se traduise en acte. Parce que son discours, bon, en malin, encore une fois, quand elle dit les récidivistes, c'est le problème. La surpopulation, c'est le problème. Mais ça, c'est le diagnostic.
Mais je pense que
c'est très bien le diagnostic qu'on a
trouvé. Je pense que ce discours, justement, là, on a un exemple concret. Vous avez un multirécidiviste, des policiers qui sont jetés en pâture sur les réseaux sociaux, la non-effectivité de la peine. Donc tout ça, en fait, doit, on va dire, par rapport à ce que disait Mme Borne, c'est qu'il faut justement agir là-dessus. Vous avez un exemple concret. Qu'est-ce que vous allez appliquer? C'est-à-dire les procédures, les alléger, les OQTF, les appliquer vraiment directement, parce qu'après, effectivement, il y a des recours, etc. Mais tout ce qui est récidive, la réponse pénale. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Et c'est ça, nous avons l'exemple concret. Et aujourd'hui, il faut soutenir aussi les policiers par rapport à ça.
Ça m'amène à évoquer cette légitime défense dans la police. Il y a eu un colloque qui s'est tenu ce jour, justement pour répondre à cette question. À quel moment on fait usage de l'arme? À quel moment, encore une fois, ça dysfonctionne du côté de la réponse pénale? On fait le point avec Vincent Farandaise et puis je vous passe la parole là-dessus.
Présents dans la salle hier, des policiers, mais aussi des sociologues, psychologues, avocats et magistrats. Objectif, faire un état des lieux sur la notion de légitime défense dans la police, l'usage de l'arme et la réponse pénale. Selon ce syndicaliste, ce colloque a permis aux magistrats notamment d'ouvrir les yeux sur la réalité du métier de policier.
Les magistrats eux-mêmes se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils soient sensibilisés à l'usage de l'arme, au métier de la police. Que ressentait un policier quand il est en période de stress, quand il est en période d'agression? Et il ne faut pas oublier qu'en fait, derrière la notion de légitime défense, pour un policier, quand il est dans la rue, c'est un combat.
La protection et le suivi des agents a également été traité.
On s'est rendu compte que l'administration avait un devoir de protéger ses fonctionnaires, sauf qu'en fait, elle a 2 mois pour donner une réponse. Et sauf que le policier, il attend, lui, d'être pris en charge de suite. D'où l'intérêt de réfléchir à un système de référé. On pourrait faire appel très très rapidement pour, si on n'est pas d'accord avec la décision de l'administration, pour être protégé.
À l'image de cette proposition, les personnes présentes entendent porter certaines mesures devant leur administration.
Quand un policier est dans la rue, c'est un combat, Karim. C'est frappant comme phrase, évidemment. Hein. C'est un combat.
Il faut se mettre à la place des policiers quand ils quittent le domicile familial le matin. Donc certains le quittent avec la boule au ventre parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont rencontrer. Et même dans un contrôle qui pouvait être qualifié de banal il y a quelques années aujourd'hui, il n'y a plus rien de banal. Donc et encore une fois, moi qui étais au ministère de l'Intérieur, conseiller de ministre de l'Intérieur, quand je parlais aux fonctionnaires de police, alors vous allez me dire, ça fait 2 décennies. Oui, d'accord, mais on me disait, mais moi je sors jamais mon arme, je l'ai jamais sortie durant toute ma carrière. Donc, et c'est le lot de la majorité des fonctionnaires de police. Mais qui n'aspire qu'à ça, il faut le savoir. C'est jamais par plaisir qu'ils sortent une arme. Ils sortent une arme pour se protéger, pour protéger autrui, donc pour en faire usage, parce que effectivement ils sont presque dos au mur. Mais ce ne sont pas des cow-boys, les fonctionnaires de police. Et ils savent effectivement ce que ça leur coûte de sortir leur arme. Parce que derrière, même s'ils n'en font pas usage, il y a un rapport. Et derrière le rapport, on vient chercher à comprendre pourquoi vous l'avez sorti et que s'est-il passé, dans quelles circonstances. Donc, et ça, ils veulent l'éviter. Donc oui, il faut être derrière eux. Oui, il faut leur permettre de s'entraîner peut-être aussi plus souvent à l'usage de l'arme, parce que tout ça, c'est un temps qui va restaurer aussi de la confiance pour les fonctionnaires de police. Aujourd'hui, ils travaillent à flux tendu, donc parfois il y a des effectifs insuffisants, donc ils n'ont pas le temps de s'entraîner comme ils l'aimeraient. Tout ça, il faut le prendre en compte.
Ok. Abdoulaye Kanté, un petit mot?
Non, mais juste pour vous rejoindre, c'est qu'effectivement, il était nécessaire de vraiment mettre en avant ces difficultés quand un policier sort son arme. Moi, j'ai déjà arrivé de sortir mon arme et je peux vous dire que vous n'êtes pas serein, en fait, parce que il y a tout le, on va dire, l'accompagnement qui va de suite, parce que tout de suite, je reviens au dernier refus obtempéré, malheureusement, qui sont terminés dans un drame. Nous avons ces collègues-là qui n'ont pas eu l'accompagnement nécessaire aussi, des fois, de notre hiérarchie. Et parce que je peux vous dire que quand un policier fait usage de son arme, je peux vous dire que psychologiquement, il n'avait pas cette intention-là. Et aussi, il n'est pas aussi bien. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Tout de suite, on va dire, ben voilà, le policier a tué, mais on ne se rend pas compte dans quelles conditions, donc quelles sont les conséquences. Et je trouve que cette initiative de mettre les magistrats face à ce genre de questions doit aussi apporter aussi à réfléchir, doit montrer que, vous voyez, voilà, un policier, c'est pas le cow-boy, c'est pas l'individu qui a le permis de tuer, contrairement à ce que certains politiques ont voulu dire depuis beaucoup d'années. Là, aujourd'hui, pour terminer, encore une fois, plein soutien à nos collègues qui, dans cette difficulté, je peux vous dire que quand vous êtes face à une situation où vous devez sortir votre arme en moins de 10 secondes, franchement, je défie quiconque de pouvoir faire cela.
Bien sûr. Joseph Massescaron.
Oui, il y a le mot un peu qui me plaît pas trop, c'est le mot légitime défense, parce que légitime défense, ça recouvre parfois d'autres choses. La défense, la défense du policier, elle est par nature légitime. Donc quand on dit légitime défense, il y a pour moi une redondance qui en plus...
Enfin, c'est un danger immédiat.
Oui, c'est un danger immédiat.
Donc, défense donc, légitime.
Ça, oui. Donc ça ne me plaît pas. Donc ça ne me plaît pas. Maintenant, l'époque, faut bien savoir, c'est l'époque où un policier sortait son arme parce que c'était dans le cadre, par exemple, d'une affaire de grand banditisme ou autre, c'était des éléments relativement exceptionnel. C'est terminé parce que aujourd'hui, les personnes qui attaquent les policiers peuvent attaquer les policiers après avoir créé, par exemple, un feu de poubelle. Hein, après avoir créé un rodéo urbain, donc c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la même nature. C'est-à-dire que les policiers sont attaqués volontairement parce que dans l'esprit des gens qui les attaquent, c'est une affaire de bande à bande et pas entre les forces de l'ordre et les citoyens. Donc c'est là où on est aujourd'hui dans une forme de guérilla urbaine. On est rentré dans une forme de guérilla urbaine, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas.
– Oui, les uns face à face et non plus côte à côte, comme le disait Gérard
Collomb. – Et à partir de ce moment-là, quand sortir une arme pour le policier, c'est quand même quelque chose de tout à fait normal. Il se défend. Et quand vous avez des policiers qui sont censés établir l'ordre et ne pas avoir d'armes, ce qui est encore, je crois, le cas à Paris, voilà, ce qui, moi, me paraît un peu frappadingue, personnellement, vu la situation. Vu la situation dans la capitale, ça, j'avoue que je ne comprends pas.
Alors, Gérard Leclerc.
Non, simplement, les policiers ont l'évidence besoin de concertation, de soutien, etc. En revanche, il me semble, parce qu'il y a eu un débat autour de ça, que c'est exactement le type de sujet sur lequel il ne peut pas y avoir une règle précise sur la façon dont interviennent les policiers. L'idée d'une présomption de légitime défense, je pense que c'est une folie, parce que là, on risquerait de partir dans n'importe quoi. Et c'est vraiment, là, pour le coup, au policiers de en fonction de la situation de prendre, et d'ailleurs ça veut dire que c'est une vraie responsabilité, mais de décider comment il doit intervenir et effectivement de sortir son arme et même de l'utiliser s'il faut l'utiliser. Mais je pense pas qu'on puisse rentrer dans des règles trop précises. Parce que c'est vraiment, pour le coup,
d'où,
au cas par cas.
D'où la création de juridictions spécialisées, voilà, de magistrats. Nous avons des magistrats qui sont spécialisés dans tout ce qui est antiterrorisme, tout ce qui est dans les questions financières. Pourquoi pas dans ces questions-là? C'est-à-dire qu'un magistrat qui, lui, a été confronté, a vu ce genre de situation par rapport à des formations, etc., et justement, il pourra juger par rapport à cette situation.
C'est la formation du magistrat dont on parlait tout à l'heure.
Exactement. Je pense qu'il faut élargir, on va dire, parce que pour moi, un magistrat a aussi des compétences. Donc, voilà, il faut élargir cela, notamment sur ces questions, parce que le policier, on va dire tout de suite que, mais comment quelqu'un peut se rendre compte que le policier a volontairement tiré, ou bien c'était pour sauver sa vie, ou il l'a fait de manière volontaire. Donc il faut que les gens se rendent compte que quand un policier fait usage de son arme, quoi qu'il arrive, il sera obligé de s'en expliquer, parce qu'il faudra déterminer les tirs, les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Donc il faut aussi de l'autre côté que la magistrature aussi se rende compte de cela.
Karim, il est important qu'il y ait de la plus grande fermeté, que les gens comprennent vraiment ce qu'ils risquent quand ils s'en prennent à un policier. Et ça, j'ai pas l'impression que c'est très très clairement ancré dans la tête de certains d'entre eux.
Non, c'est certainement pas assez clair, pas assez rappelé, pas assez martelé.
Pas assez
et puis
ferme.
La sanction, donc aussi parfois pas infligée comme il se doit. Et lorsqu'elle est infligée, il faut aussi communiquer autour, parce que le faire savoir est important. Voilà ce que vous risquez si vous attaquez un fonctionnaire de police. Il y avait une mesure qui était proposée dans le programme de Valérie Pécresse, des Républicains, qui consistait à dire vous attaquez un agent des forces forces de l'ordre. Donc, c'est la casse-prison. Pendant un an, minimum. Donc, et c'est indiscutable et pas négociable. Je pense que c'est une mesure qui peut effectivement être dissuasive. Parce que s'attaquer à un fonctionnaire de police, ça n'est pas anodin. Ça veut dire que vous êtes capable de franchir un cap qui est celui, effectivement, de l'inacceptable dans le cadre du respect des lois de la République, des institutions républicaines. Je suis désolé, ils se sont engagés. C'est pas pour mourir, effectivement, sur le théâtre des opérations sur lesquelles interventions. Donc, ils sont là pour protéger et servir les fonctionnaires de police. Donc, protéger et servir l'ensemble de la population. Et d'ailleurs, je vais vous dire, même les politiques qui les critiquent, qui parfois ont des langages
excessifs,
très déplacés, si demain, ils ont un problème, ils feront le 17. Hein. On se le dise, ils feront le 17.
Et ils prennent la protection rapprochée s'ils en ont besoin.
Sur ce, moi, je suis d'accord sur toute la première partie de la démonstration de Karim, mais pas sur la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut des décisions fermes et appliquées dès qu'on s'attaque à une autorité, et en particulier à la police. En revanche, je ne suis pas persuadé, je pense que la réflexion que l'on doit avoir sur la peine ne se résume pas à les mettre en prison. Je pense que, notamment quand c'est des mineurs, là, je crains que ce soit une folie, parce que la prison, souvent, c'est une école
d'éducation renforcée.
Et ben voilà. Et c'est ce qui manquait aussi dans le. Bah, elle ne pouvait pas parler de tout, mais dans le discours d'Elisabeth Borne, c'est qu'il y a comme ça. Il y a un certain. C'est bien, les positions de principe sont très bien, mais ensuite, il faut voir comment on fait pour les appliquer.
C'était aussi le centre de détention renforcé dans le programme de Valérie Pécresse, donc c'est assez drôle. Non, mais c'est quand même assez drôle.
C'est-à-dire qu'ils auront des points de convergence à l'Assemblée sur ces sujets.
Ça montre au moins qu'il y a de bonnes essais de lecture. Non, simplement, je pense que le problème est aussi un problème général, on ne l'oubliera pas. C'est-à-dire que, bien sûr, toute attaque contre les forces de l'ordre, c'est normal, c'est le force de l'ordre, rempart de la République, on le sait. Mais aussi, toute attaque, évidemment, bien sûr, contre un professeur, un instituteur. Toute attaque contre un agent hospitalier. Il y a maintenant, aujourd'hui, des professions qui doivent être systématiquement protégées.
Non mais il a raison, Joseph, c'est fondamental. Il faut resanctuariser des fonctions dans notre République qui ont été, complètement délégitimées et traitées comme au moins que rien. Et je considère effectivement que quelqu'un qui est attaqué aux urgences parce qu'il exerce son boulot, il est là pour sauver des vies, celui qui attaque, il doit savoir ce qu'il encourt. C'est une peine ferme, donc absolument. Et tout à l'heure...
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Les
professeurs qui sont attaqués, qui retrouvent l'attaque filmée sur les réseaux sociaux.
Mais à cause de quoi,
l'exemple des Pays-Bas est intéressant. On le cite souvent. Mais je pense que là, à la matière, la peine d'incarcération pour les mineurs, c'est les centres d'éducation renforcés, fermés, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais pour les majeurs, c'est la prison. Une peine effective, effectuée de prison ferme, forcerait les gens à réfléchir.
Un dernier mot de la Conté.
Non, juste pour dire qu'effectivement, il faut, reparler de ces professions qui sont dans la difficulté, où il n'y a plus ce respect, mais à cause de quoi aussi? Parce qu'il y a eu des discours aussi qui ont fait en sorte de légitimiser ces emplois. Par exemple, les professeurs, les médecins, les enseignants, les policiers, les pompiers, tous ces métiers qui sont dans notre quotidien, qui ont cette importance aujourd'hui, il faut les respecter, parce que c'est la République.
Madame la Première Ministre a du boulot, hein.
Oui.
Il va falloir passer à l'acte, hein. Parce que le discours c'est bien, les actes c'est mieux.
Et sur la justice, il faut que son ministre soit au rendez-vous de ce qu'elle a dit, sur la réponse pénale, toute infraction doit être sanctionnée. Là, il va falloir que Éric Dupond-Moretti
sorte. Il faut du concret. Les faits d'actualité indiqueront si on va vers une autre culture, effectivement, en matière de sécurité et de justice ou pas.
Discours encourageant.
Ce gouvernement a chanté les mérites, à juste titre, les mérites de l'entreprise. Et ben, ils doivent apprendre de l'entreprise ce qu'on appelle la culture de la preuve.
Exactement, la culture de la preuve. À suivre dans Punchline. Merci à tous les quatre. Joseph Massescaron, Gérard Leclerc, Abdoulaye Kanté, policier. Vous aviez écrit ce livre, Policier enfant de la République, aux éditions Faya. Et Karine Zerébi, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour nos débats de Punchline, la suite. Et puis dans un instant, c'est Clélie Mathias qui vous attend sur CNews avec ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Laurence Ferrari sur Europe 1.